Bonjour à tous. Donc cette conversation va se dérouler entre une informaticienne. Je suis informaticienne, je suis DRC NRS au LIG, au laboratoire d'informatique de Grenoble. Je travaille sur les algorithmes de fouille, de traitement de données à grande échelle. Et Amélie Favreau, qui est juriste.
Exactement, je suis juriste, je travaille à l'université Grenoble-Alpes et je travaille plus particulièrement sur tout ce qui est propriété intellectuelle et nouvelles technologies.
Voilà, et Juliette Sénéchal, qui est juriste également.
Bonjour, donc moi je suis à l'université de Lille et je travaille principalement sur les questions de commerce électronique et de droit de la consommation.
Voilà, donc en fait la question qu'on a choisi de se poser c'est dans comment développer une approche qui est pluridisciplinaire dans la manière d'aborder ce qu'on va appeler pour le propos risque données et risque algorithme. Donc on va procéder de la manière suivante, je vais tenter une définition de risque données et risque algorithme qui bien sûr est on va dire un peu limitée à cette conversation. Et puis ensuite, je donnerai la parole à mes collègues pour émettre des opinions un peu différentes les unes des autres. Et puis, on conclura à la suite de tout ça. On va tenter de passer 20 minutes là-dessus, de sorte à ensuite avoir une conversation avec vous tous. Alors, de quoi s'agit-il ? Donc, pour le risque donné, on va le définir comme étant de deux natures différentes. Donc, le risque donné, c'est par exemple le risque sur la vie privée, donc dévoiler des données personnelles d'individus, ou ne pas, soit parce qu'elles ne sont pas assez bien anonymisées, accessibles mais non assez bien anonymisées, ou alors parce qu'elles ne sont pas sécurisées. Donc elles ne sont pas, par exemple, stockées de manière sûre. Il y a également, sous ce qu'on définit comme étant le risque donné, le biais des données donc, et la contribution de ce biais dans les décisions qui sont prises sur la base de l'exploitation de ces données. Et sous le risque algorithme, on va se limiter à ce qu'on va appeler le biais algorithmique. Pour revenir au risque donné, donc pour le biais donné, il y a eu donc en fait c'est un peu une mise en cause du contenu de la donnée au regard de la décision qui est prise sur la base de l'exploitation de cette donnée. Donc il y a une classification qui a été faite par des collègues à Télécom Paris Tech qui sont informaticiens mais aussi en sciences humaines et sociales que je vais reprendre que j'aime beaucoup et qui un peu enfin voilà couvre un peu tous ces aspects de biais donné. Donc il y a le biais de la représentativité qui est celui qu'on évoque très souvent. Donc un exemple par exemple serait que les données contiennent principalement ou représentent principalement des informations sur juste une sous-partie de la population. Par exemple, ce sont des données qui vont décrire des personnes d'origine asiatique seulement. Ça pourrait être des photos donc, de personnes d'origine asiatique. Donc ça, c'est un biais de représentativité. Il y a le biais de ce qu'on peut appeler le biais de modélisation ou d'encodage. Donc en fait, c'est comment représenter dans la donnée certains, par exemple, de personnalité. Ça peut être comment je vais représenter l'intelligence émotionnelle. Donc il y a un peu une approximation, une façon de la représenter qui peut contenir un biais. D'autres exemples de biais d'encodage, c'est comment je représente la motivation d'un individu, d'accord ? Quels sont les facteurs qui vont encoder la motivation ? Donc, il peut y avoir un biais dans la manière dont cette information est représentée. Il y a également ce qu'on peut appeler le biais de sélection ou le biais de stéréotype. Donc, par exemple, on va accorder des prêts bancaires qu'aux personnes qui en ont eu dans le passé. C'est un peu plus compliqué pour ceux qui n'en ont pas eu. Donc, c'est un biais de sélection. Donc ça, c'était pour ce qui est du biais donné. Donc pour reprendre, ce qu'on va appeler risque donné, c'est le risque de divulgation de la donnée pour des causes de non-protection de la vie privée au biais d'un manque d'anonymisation ou de sécurisation des données. mais également donc ces différents types de biais qui sont dans la donnée elle-même. Ensuite, il y a le biais algorithmique. D'accord, quelque chose d'assez différent. C'est on peut le voir comme étant un biais un peu opérationnel ou de comportement algorithmique qui est mis en cause. D'accord. Et là-dedans, on retrouve aussi une classification plus ou moins exacte. Par exemple, ce qu'on peut appeler un biais économique, c'est-à-dire vous pouvez penser aux données comme étant complètement parfaite, représentative, très bien modélisée, pas de biais de sélection, mais elles vont être exploitées d'une certaine façon. C'est-à-dire, par exemple, je veux pousser certains produits que j'ai envie de découler, ou je veux pousser des produits qui coûtent plus cher. Donc, j'optimise pour des critères économiques. Et ça, c'est plus un comportement. Hein, donc, on va penser à une boîte qui est l'algorithme, qui va prendre des données qui sont peut-être complètement clean, pas biaisées, et qui va faire certains choix, et le choix peut être guidé par des critères économiques. Et puis après, ce qu'on peut mettre de manière plus globale dans la notion de biais algorithmique, de biais cognitif. Donc qu'est-ce qu'un biais cognitif? Par exemple, la personne qui va écrire cet algorithme-là va avoir un biais de conformité ou un biais d'anticipation ou de confirmation. Si tout le monde pense certaines choses, je vais également le penser consciemment ou inconsciemment, et donc je l'intégrerai dans la manière dont l'algorithme va opérer. Donc ça peut être dans, on peut retrouver ça dans des tas de choses, dans par exemple des plateformes d'embauche en ligne. Aujourd'hui, beaucoup d'entre elles sont automatisées. Donc par exemple, il y a une plateforme en France qui s'appelle Mr. Temp. Il y a aussi Kappa. En France, aux États-Unis, on retrouve TaskRabbit, donc qui vont mettre en relation des gens dans la vie physique ou même complètement en ligne. Je vais embaucher quelqu'un qui va me faire mon logo ou ma page web, d'accord ? Eh bien, l'algorithme qui va mettre en correspondance d'appariement, qui va mettre en correspondance des personnes et des demandes, des propositions d'embauche, peut contenir un biais d'anticipation ou de confirmation, peut contenir un biais de conformité. Il y a aussi des choses comme par exemple de corrélation illusoire. Donc je vois des corrélations là où il n'y en a pas. Donc je vais utiliser certaines propriétés des individus pour les apparier à des demandes d'embauche qui ne correspondent pas forcément à celles que je devrais utiliser ou qui reflètent un biais cognitif de celui qui va écrire l'algorithme. Voilà, donc j'ai terminé avec cette introduction et je vais passer la main à Amélie. Oui, à Amélie. Très bien, vas-y.
Merci de cette introduction et de cette présentation qui, nous permet, selon deux technologies, donc l'intelligence artificielle pour Juliette. Et pour ma part, je vais me concentrer sur la blockchain, parce que c'est une technologie que je connais un petit peu mieux. Je travaille sur cette technologie depuis quelques années. Et d'ailleurs, j'en profite, nous travaillons toutes les trois sur cette technologie, la blockchain. Et on peut lancer un petit appel à manifestation d'intérêt s'il y a d'autres personnes qui se trouvent intéressées par ce type de sujet. Alors, je vais reprendre cette articulation qu'a présentée Siem dans l'introduction entre les données et les algorithmes, et en essayant d'illustrer, parce que la difficulté avec une technologie telle que la blockchain, c'est que c'est une technologie qui est complexe. Donc je vais essayer de donner un maximum d'exemples pour qu'on puisse bien mesurer à la fois ce qu'est une donnée, un algorithme, mais aussi en quoi cela peut présenter un risque à travers cet outil technologique. Alors concernant les données, tout d'abord, prenons l'exemple des données et des risques qui peuvent être associés. La blockchain fonctionne par un principe de chiffrement à double clé cryptographique, ce qui signifie que pour opérer une transaction, il est nécessaire d'avoir d'un côté une clé privée qui s'apparenterait à un code PIN, et de l'autre une clé publique qui pourrait, si on donne une image commune, s'apparenter à un IBAN. C'est l'articulation de ces deux clés ensemble qui va permettre de pouvoir générer une transaction. Alors, je dis les choses de manière très simplifiée, mais voilà, pour situer la scène, ça se fonctionne un peu comme ça. Alors, beaucoup d'utilisateurs qui utilisent le réseau blockchain vont confier aux plateformes pour réaliser leurs transactions leurs clés privées et vont leur déléguer la gestion de leurs clés privées. Donc, je rappelle, la clé privée, c'est le code PIN, c'est-à-dire ce qui, normalement, doit rester secret, et va leur déléguer la gestion de cette clé privée, de leurs adresses, et également des mouvements de fonds qu'ils vont opérer. Alors, ces clés privées sont stockées de deux manières. Il existe deux grands types de stockage de ces clés privées, ce que l'on appelle les hot storage, où les clés privées seront stockées sur Internet, ou sur un périphérique isolé, ce que l'on appelle les cold storage. Alors, on comprend bien, les cold storage sont beaucoup plus sécurisés que les hot storage qui vont laisser les clés ils sont accessibles sur Internet. Ce hot storage est particulièrement donc vulnérable, et là j'en viens au risque, est particulièrement vulnérable au piratage. On estime environ à 92% les plateformes qui utilisent du cold storage. Donc on est en train de parler d'une minorité de plateformes. Mais quand même, ce risque est réel pour le hot storage. Je vous donne un exemple chiffré. Depuis 2011, on recense 19 incidents graves sur ces hot storage pour un montant estimé, donc d'usurpation de ces clés privées, pour un montant estimé de perte à 1,2 milliard de dollars. Donc les causes de ces incidents, elles sont multiples. On peut avoir de la falsification de clés privées, on peut avoir de l'usurpation de clés privées, on peut avoir du hacking de ces clés privées avec des logiciels malveillants qui viennent soustraire ces informations. Donc les causes sont multiples, et encore une fois, ce risque donné illustre la faiblesse, ce que je souhaitais mettre en évidence, illustre la faiblesse de ce système de hot storage, de stockage sur Internet. Pour illustrer la partie que tu as présentée sur les algorithmes et les risques, donc de la même manière, qui peuvent être associés aux algorithmes sur la technologie blockchain. Alors, on entend parler de cet échange de crypto-monnaies sur les plateformes. Voilà, vous avez tous entendu, j'imagine, parler de ces Initial Coin Offering, ICO, qui se développent. Et ces échanges de crypto-monnaies sur les plateformes se diversifient, se développent et font naître aujourd'hui de véritables infrastructures de marché. L'ambition en France est la mise en place d'un environnement qui, pour ces infrastructures de marché, qui favoriserait l'intégrité, la transparence, la sécurité des services qui sont proposés sur ces infrastructures et qui permettrait d'apporter une sécurité aux investisseurs alors on appelle toutes ces crypto-monnaies, ces jetons, des actifs numériques, donc qui permettrait de sécuriser les investisseurs en actifs numériques, tout en l'ambition, encore une fois, du législateur, en assurant un cadre réglementaire qui sécuriserait tout cet écosystème. La France donc s'est dotée récemment de quelques dispositions qui permettent de réguler de manière souple ces activités. C'est la loi Pacte du 22 mai, par exemple, dernier. Pour autant, et là je bascule sur les risques, pour autant, les risques existent. et demeurent, que ce soit à un niveau mondial, mais également encore à un niveau français. Alors, j'en donne quelques exemples. Ce sont notamment les risques qui sont attachés à des cotations non transparentes ou à des transactions suspectes qui s'apparentent à des manipulations de cours, par exemple, ou à des pratiques d'investisseurs informés, de type front running, où en fait c'est une technique boursière qui permet à un courtier d'utiliser un ordre qui a été transmis dans son intérêt. On a d'autres exemples, et tous ces exemples illustrent le risque algorithmique qui diffère en quelque sorte du risque donné que j'ai présenté avant.
Donc, je t'interromps juste un instant. Donc là, tu parles du risque algorithmique principalement économique, en fait, pour des raisons...
Principalement économique, exactement. Et donc, pour conclure sur la question initiale qui était posée, c'est-à-dire le prisme par lequel on a choisi d'aborder ces deux risques donnés et algorithmiques, c'est-à-dire comment doit-on aborder les risques donnés et les risques algorithmes sur les plateformes numériques ? Est-ce qu'on doit les aborder ensemble ou séparément ? Eh bien, la juriste que je suis dirait que concernant la blockchain, la réponse juridique doit être séparée parce que les risques qui sont saisis, que ce soit le risque donné ou le risque algorithme, sont différents. D'un côté, sur le risque donné, ce sont des dispositions que l'on va mobiliser du droit pénal, de la responsabilité civile, du droit de la protection des données à caractère personnel. Sur le risque algorithmique, doucement abordé, on a simplement une régulation des activités de prestataires sur services d'actifs numériques et donc on a un mécanisme qui est principalement souple et régulatoire. Donc l'approche doit être différenciée, qu'il s'agisse du risque algorithme ou du risque donné. Mais encore une fois, on en parlait en aparté, ce n'est peut-être qu'une opinion personnelle qui méritera d'être discuté avec plaisir selon vos questions. Je vous remercie. Voilà.
Merci Siem, merci Amélie. Donc, pour cette question de savoir s'il convient d'envisager le risque donné et le risque algorithmique de manière séparée ou de manière commune et unitaire, en fait, et en particulier cette fois-ci en matière d'intelligence artificielle, puisque c'était le deuxième point. Donc là, je vais vous proposer une vision, mais qui est une vision du juriste et qui doit être complétée. Et là, je repasserai la parole à Siem par une vision technique, bien évidemment, et informatique également. Donc voilà, donc comment est-ce qu'on doit saisir de manière commune ou séparer ces deux risques sous l'angle de la question de l'intelligence artificielle ? Eh bien, pour pouvoir répondre à cette question, je vais poser énormément de questions en réalité. Je ne suis pas sûre que je donnerai toutes les réponses aux questions que je vais poser. Donc, la première chose, c'est que pour le juriste, première difficulté, c'est saisir ce qu'est l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est une complexité première et quasi diabolique pour le juriste, mais peut-être pas que pour le juriste d'ailleurs. Et elle est d'autant plus diabolique qu'en fait, il y a vraiment des tenants de différentes visions de ce qu'est l'intelligence artificielle. Et elle peut être, finalement, l'intelligence artificielle peut être envisagée de manière très très large ou de manière plus restrictive. Et puis la complexité se rajoute puisqu'on a quand même un créateur d'un assistant vocal intelligent assez connu qui s'appelle Siri, hein, je ne parle que de l'assistant vocal, donc, qui vient de publier un ouvrage où il dit que l'intelligence artificielle n'existe pas. Alors là, ça rajoute un facteur de complexité. Et donc, les discussions avec les informaticiens, les lectures permettent finalement d'aboutir à quelques données sécurisées entre guillemets sur la question. Donc de ce que je peux comprendre en tant que juriste, donc l'intelligence artificielle, c'est les théories et les techniques qui sont mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence sous-entendue humaine. Mais cette simulation, elle est souvent sur une certaine partie de l'intelligence et certainement pas sur la totalité de l'intelligence humaine. Et par ailleurs, il y a immédiatement une équivoque parce que et d'ailleurs Luc Julia, donc le créateur de Siri, dit dans son ouvrage qu'il préfère, plutôt que de parler d'intelligence artificielle, de parler de machine learning ou de connaissance artificielle. Bon. Alors là déjà, rien qu'en disant ça, il y a déjà deux concepts assez différents, parce que dans machine learning, il y a la notion d'apprentissage. Dans connaissance artificielle, moi, je ne vois plus l'apprentissage, je ne vois que la connaissance, qui, me semble-t-il, est un peu différent. Donc ça, c'est un premier point. Après, il y a vraiment ce qu'on appelle les tenants de l'intelligence artificielle fondée sur cette notion d'apprentissage, et qui est donc vraiment très fortement liée à la collecte de données massives, hein, ce qu'on appelle le big data. Et donc ces tenants-là, c'est ce qu'on appelle les tenants du connexionnisme, donc qui centrent vraiment qui ont une vision restrictive finalement de l'intelligence artificielle, vue comme donc fondée sur une forme de biomimétisme, donc de comparaison avec le fonctionnement du cerveau humain, des réseaux de neurones, et avec donc un processus de raisonnement qui serait de type inductif. Donc, et qui réalise des prévisions ou des généralisations à partir d'observations, qui nécessitent la collecte de données massives et l'utilisation de méthodes probabilistes. Donc voilà, donc ça c'est les tenants du connexionnisme, mais finalement on peut voir aussi que certains intègrent également dans l'intelligence artificielle ce qu'on appelle le symbolisme. Et donc c'est l'utilisation de concepts de plus haut niveau qui ne mobilise pas les procédés du biomimétisme, qui ne mobilise pas nécessairement la collecte massive de données, et qui préfère fonctionner selon un raisonnement qui est déductif, qui s'appuie sur la logique, et qui permet de résoudre un certain nombre de problèmes, donc fondés sur la logique et l'algorithmique, peut-être un peu plus utilisé de manière un peu plus pure, sans mobilisation des données. Donc voilà, donc déjà, dans l'intelligence artificielle, me semble-t-il, il y a une partie de l'intelligence artificielle. Si on admet que c'est de l'intelligence artificielle, parce que hier, par exemple, ça me semblait être pas nécessairement relevé de l'intelligence artificielle lorsqu'on était principalement sur des raisonnements déductifs fondés sur la logique. Bon, voilà. Donc, il y a deux types d'intelligence artificielle ou de vision de l'intelligence artificielle. L'une plutôt donc basée sur la pensée abstraite, la gestion des symboles, l'algorithmique et la logique, et donc ce qu'on appelle le symbolisme. Et un autre type, celui dont on parle plus en ce moment, qui est le connexionnisme, qui se fonde davantage sur la collecte de données, les questions de perception, qui mobilise des questions liées à la vision, la reconnaissance de forme, et qui utilise des méthodes liées à des réseaux neuronaux artificiels et des méthodes probabilistes. Et donc sur le connexionnisme, dans lesquelles donc l'usage des données massives est très importante. Voilà. Alors déjà, voilà, première difficulté, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle ? Ensuite, bon, l'intelligence artificielle, elle est mobilisée dans énormément de secteurs d'activité, que ce soit donc la vision, le langage, la robotique, le marketing, la vente, les ressources humaines, la comptabilité, la cybersécurité. Donc elle est très largement mobilisée. Et donc, pour le juriste, si on saisit les risques qui peuvent donc intervenir dans ces différents types de secteurs d'activité, il y a un certain nombre de questions qui se posent, puisque donc le jury, s'il entend risque, il va peut-être penser à prévention des conséquences dommageables et aussi à responsabilité. Et donc, comment saisir l'ensemble de ces risques de l'intelligence artificielle dans tous ces secteurs d'activité? Déjà, est-ce qu'on va saisir la question en silo, c'est-à-dire que par secteur d'activité, par type d'usage de l'intelligence artificielle, ou est-ce qu'on va plutôt essayer de penser une responsabilité, une prévention des risques de manière générique? Donc ça, c'est une première question. Le mouvement actuel, c'est plutôt une saisie des conséquences dommageables, tant sous l'angle de la responsabilité que sous l'angle de la prévention, en silo, c'est-à-dire par secteur, par type d'usage, hein, c'est ce qui est en train de se dégager dans les premières interventions législatives. Et la deuxième sous-question, c'est est-ce qu'on peut penser la prévention des risques ou la responsabilité de la même manière selon que l'intelligence artificielle s'incorpore dans un objet qui va agir, donc de type un robot, un véhicule autonome, ou est-ce qu'on va penser de la même manière l'intelligence artificielle lorsqu'elle va se traduire par une décision, une recommandation algorithmique qui est totalement dématérialisée? Donc est-ce qu'on va les saisir de la même manière? Et le mouvement actuel est également de plutôt saisir de manière distincte ces deux types de phénomènes, c'est-à-dire lorsque l'intelligence artificielle est incorporée ou lorsque elle se déploie de manière totalement dématérialisée. Alors, je vais donc vous donner deux exemples de réflexion juridique actuelle ou d'intervention juridique actuelle sur ces questions de prévention des risques ou de responsabilité. Donc, la première aspect, donc décision et recommandation algorithmique, donc sous une forme dématérialisée. Donc là, très rapidement, le mouvement actuel est vraiment de saisir l'intelligence artificielle comme un ensemble, c'est-à-dire de ne pas distinguer le risque algorithmique du risque donné à proprement parler. Si on se place, par exemple, sous l'angle des recommandations qui vont être faites à un consommateur dans le cadre d'un acte de commerce électronique. Donc ça, les recommandations algorithmiques, elles sont vraiment saisies comme un tout. Et donc là, on va essayer, donc ce qui va être essayé, donc c'est dans le code de la consommation, ça provient de la loi pour une république numérique. Donc ce qu'on va essayer, c'est d'offrir au consommateur pour qu'il ait bien conscience de l'impact que va avoir la recommandation sur ses choix et sur les futurs contrats qu'il va conclure. Eh bien, on impose aux opérateurs qui donc proposent ces recommandations algorithmiques qui sont basées à la fois sur de la collecte massive de données et de l'algorithmique. Donc, on impose à ces opérateurs de délivrer une information loyale, claire et transparente sur donc les modalités de référencement, de classement ou de déréférencement des informations sur des contenus, des biens ou des services qu'il chercherait à acquérir ou à obtenir. Donc voilà, donc là c'est vraiment une saisie au global, donc sans distinction entre l'aspect purement algorithmique et l'aspect collecte massive de données. Et le deuxième exemple, et j'irai très très vite, Siem, donc c'est le véhicule autonome, donc là c'est l'intelligence artificielle embarquée dans un objet qui peut bien sûr causer d'énormes dommages. Alors là, on en est au balbutiement des interventions législatives. La Commission européenne est très intéressée par le sujet, mais la France n'est jamais en reste parce qu'elle veut toujours aller plus vite que l'Europe. Et donc, on a la loi d'orientation sur les mobilités, là, qui est donc en cours de processus législatif. Donc là, l'idée, ça va être de créer une responsabilité attachée à l'usage de ces véhicules autonomes. Et clairement, donc l'idée, ce sera vraiment d'identifier un garant dans l'hypothèse de l'usage de ces véhicules et donc et des dommages que cela pourrait causer. Et donc de ce fait-là, on va à nouveau envisager La question des données massives qui vont être nécessaires pour l'usage de ces véhicules, la question de l'algorithmique et aussi même la question de l'objet comme un tout qui va être saisi en première attention pour trouver quel va être le garant responsable des conséquences dommageables. Mais, et là je renvoie à l'informaticienne plus précisément, donc clairement après il faudra potentiellement redécomposer pour essayer d'identifier quelle a été véritablement la source du dommage.
Très rapidement, avant de vous donner la parole, donc ce que je comprends, c'est que Amélie, toi, tu prends la position de... Il faut séparer le risque donné, le risque algorithme, parce que il s'agit de textes de loi différents, donc voilà, c'est différents types de droits. Et Juliette, si je comprends bien, tu dis que ce qui est important, ce sont les conséquences dommageables, par exemple, d'une décision algorithmique, en tout cas dans le cas où tu parles de la recommandation. Et donc, voilà quoi, c'est que le résultat qui compte, quoi, et que c'est ça qui va déterminer, soit dans un domaine d'application particulier, ou voilà, en fonction du type de dommage, qui va déterminer quel texte de loi il y aurait besoin d'appliquer. Du point de vue algorithmique, je tente une réponse rapide. Encore une fois, c'est mon opinion. Bon, on a tendance à vouloir séparer les choses. Enfin, il y a une approche d'orthogonalité. Enfin, on veut comprendre un peu les raisons des choses, retracer, par exemple, un comportement algorithmique. Et donc, a priori, naturellement, on veut séparer l'étude du risque donné du risque algorithme. Par exemple, certaines approches vont prendre différentes données, par exemple avec différents biais de représentativité, comme ceux qu'on a évoqués au départ, et vont tester un algorithme. Et ce, pour pouvoir comprendre l'aspect algorithmique, hein, sur une variété de biais de représentation dans les données. Donc c'est important, en tout cas du point de vue informatique, en particulier pour imputer une responsabilité, éventuellement, de comprendre est-ce qu'il s'agit d'un biais donné ou est-ce qu'il s'agit d'un biais algorithmique. Donc ça, c'est un aspect important. Donc on a parlé donc d'identifier les textes de loi ou alors des conséquences dommageables et donc des textes de loi. Donc besoin de soit séparer ou de traiter un peu la chose de manière globale. Mais du point de vue informatique, il est important, il me semble, de séparer un peu le traitement du risque donné du traitement de risque algorithme. La deuxième raison pour laquelle peut-être qu'il est important de séparer, c'est qu'on cherche éventuellement à réparer. Et donc une réparation du risque donné tel qu'évoqué au départ va être de nature très différente d'une réparation du risque algorithme, puisque la réparation du risque algorithme, il s'agit d'aller voir dans le contenu, dans le raisonnement opérationnel de l'algorithme, qu'est-ce qui a lieu de réparer. Une réparation du risque donné, il s'agit d'aller regarder un peu ce qui se passe dans les biais de sélection, les biais de modélisation et d'encodage et le biais de représentativité. Donc je dirais que du point de vue informatique, la séparation pour des raisons de retraçage et d'imputation de responsabilité, mais également de réparation du comportement algorithmique ou des données est préférable. D'accord. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Et puis on aimerait avoir des questions de votre part. Ou alors on vous posera des questions s'il n'y a pas de questions que cette discussion a suscité déjà.
Donc ma question c'est sur le blockchain. Vous aviez évoqué des évolutions législatives ou réglementaires sur le blockchain. En fait, je suis curieux. Vous n'avez pas eu le temps de donner des exemples et du coup je suis curieux d'avoir. J'ai pas du tout suivi ça.
Volontiers. Alors, très brièvement, je vais vous donner juste la plus récente, parce que je pourrais très bien vous parler de l'ordonnance des mini-bons en 2016, de l'ordonnance de 2017 sur les titres financiers, etc. Je vais vous donner la plus récente, qui est la loi du 22 mai 2019 sur la loi PACTE, qui vient apporter, à mon sens, deux mesures phares dans la matière. Première mesure, elle consiste à créer pour les émetteurs de jetons. Donc les jetons, je répète, c'est à la fois ces actifs numériques, ces crypto-monnaies, où donc on a différents types de jetons. Ils peuvent représenter une valeur ou bien des droits. Donc pour les émetteurs de jetons, la possibilité de solliciter auprès de l'autorité des marchés financiers ce que l'on appelle un visa optionnel. En fonction de différents éléments qu'ils devront présenter, notamment des documents d'information qui présenteront des garanties de fiabilité. Alors, ça mériterait de plus amples développements, mais c'est pour vous répondre de manière succincte. Donc, vont solliciter ce visa optionnel qui pourrait s'apparenter à une forme d'agrément. En quelque sorte, des émetteurs de jetons les plus qui répondent, en tout cas, à un cahier des charges.
Amélie Stadleron, est-ce que c'est lié au risque donné ?
Alors,
ou un agrément sur le comportement de ces... c'est une sorte de...
Alors, c'est plus lié au comportement, effectivement, ce qu'ils vont mettre en place pour cette émission de jetons. Ce n'est pas lié au jeton lui-même. Voilà, tu vois, plus à la façon dont ils vont émettre et se comporter sur ces nouvelles infrastructures de marché. Et la seconde disposition, encore une fois, que je peux identifier importante, c'est celle qui réside dans le statut que l'on va donner à ces nouveaux prestataires sur ces prestataires de services sur actifs numériques. C'est en quelque sorte réglementer ce marché secondaire où on va mettre en place, là encore, des procédures d'agrément de ces prestataires de services sur actifs numériques. Ces procédures d'agrément, selon leur activité, qu'il s'agisse de conserver, de gérer ou bien d'avoir un rôle beaucoup plus actif d'émettre, eh bien, à ce moment-là, seront soumis à un agrément qui sera soit obligatoire, soit optionnel. Sachant que le caractère optionnel rejoindra toujours cette même logique d'avoir une garantie en termes de fiabilité. Voilà.
Merci.
Oui, j'avais une petite réflexion, remarque par rapport à la blockchain et au domaine juridique. La blockchain, donc moi je suis Marie Van Olsem de l'Université de Rouen, elle constitue un processus de désinstitutionnalisation largement entamé par Internet, enfin ne trouvez-vous pas, hein, et d'autonomisation également commencé par Internet des sphères marchandes. Et donc, c'est un vrai problème par rapport à la blockchain. Elle défie, en ce qui concerne le droit, là, je me base sur la lecture que j'ai faite du bouquin d'Antoine Garapon et Jean Lassec sur la justice digitale, le rôle de tiers garant que représentent les fonctions d'avocat, d'huissier et autres. Et donc, ça pose un vrai problème. Comme on est pour Internet et société, je pense que c'est une des dimensions qu'il faudrait envisager et réfléchir. Et donc, toutes ces professions qui reposent sur la confiance que le droit a créé, a institutionnalisé. Et elle nous conduit, certes, dans le domaine de la justice, à un monde où la non-exécution des peines n'est plus possible, puisqu'il y a automatisation l'exécution automatique des décisions, mais elle doit faire face à au moins deux obstacles. Le premier obstacle que vous avez soulevé tout à l'heure, c'est le coût énergétique, c'est-à-dire que le coût énergétique qui se compte en térawatt-heure est impossible à l'échelle planétaire. J'ai assisté il n'y a pas très très longtemps à une conférence en IA qui était l'IA 40 ans après, et les intervenants mettaient largement l'accent sur cette question-là. Donc c'est inenvisageable à l'échelle planétaire à l'heure actuelle, la blockchain. Et le deuxième problème, qui est un problème sacrément important, c'est que c'est un langage sans représentation du monde, qui lie un acte technique à un régime de vérité. Et on voit avec les smart contrats, que vous devez connaître bien mieux que moi, puisque je ne suis pas juriste, mais linguiste, et qui consiste à un droit robotisé. Et là, ça pose un sacré problème, notamment d'une justice qui n'a pas subi l'épreuve de la réalité, qui est une inversion du principe démocratique, justement, de la confiance et de la garantie, puisqu'elle repose sur l'isolement et sur l'intéressement. Donc, je pense que c'est aussi, enfin, au niveau des contrats qui lient les entreprises et qui remplacent de plus en plus les tribunaux de commerce qui sont plutôt en déshérence, mais peut-être que je fais une erreur. Moi, je travaille sur le droit du transport à Rouen, mais en tant que linguiste, hein, et il y a effectivement beaucoup moins de les tribunaux de commerce traitent de moins en moins d'affaires parce que les affaires se traitent directement en smart contrat entre les entreprises.
Merci. Voilà. Merci. Merci. Alors, je vais tâcher de répondre très brièvement. Sur les smart contracts, on a la chance d'avoir dans la salle un jeune doctorant que nous encadrons avec CIEM, qui travaille sur les smart contracts et il travaille sur la formalisation du droit à travers l'écriture informatique. Abdoulaye Diallo, qui est juste là, qui en fait tente à prouver que l'écriture d'un smart contract n'est qu'une écriture informatique, c'est la mise en forme en langage informatique du droit. Et donc il le dirait beaucoup mieux que moi. Là où le smart contract s'exerce, c'est que au préalable, il y a une justification et un intérêt du droit et non la volonté de remplacer des principes démocratiques. Mais voilà, ça, c'est une position sur laquelle on pourrait discuter un peu plus longuement. Sur le coût énergétique, oui, bien entendu, Bitcoin, on pourrait parler de ces fermes de minage qui ont un impact environnemental impressionnant et qui posent de véritables problèmes écologiques graves. Actuellement, il y a des projets de recherche qui sont en cours, notamment un à Grenoble dans lequel je participe, qui travaille sur cette question du coût énergétique de la blockchain. D'autres projets sont en cours également sous la tutelle du ministère. Donc, il y a une vraie réflexion qui s'organise entre chercheurs et professionnels et entreprises sur ces questions, mais c'est un vrai problème, je le reconnais. Le tiers de confiance, ça a été soulevé hier. Là aussi, effectivement, c'est un aspect de la blockchain qui est une technologie qui est désintermédiée, donc qui a vocation à se passer du tiers de confiance, mais pour autant, on aura toujours besoin des notaires, on aura toujours besoin des huissiers. Donc, c'est pas par la blockchain qu'on va supprimer des professions juridiques. Il faut quand même raison garder. Et le dernier point, l'évolution Internet blockchain. Oui, la marche était en route, j'allais dire. Et moi, j'aime bien penser la blockchain comme le processus ultérieur de dématérialisation qui a été entamé par Internet avec un phénomène de tokenisation. Et là, c'est intéressant de penser la blockchain non pas en rupture, mais en continuité de ce processus de dématérialisation. Voilà.
Merci Amélie. Des questions sur les risques données et risques algorithmes et, oui.
Ah, j'ai oublié de parler du risque écologique.
Bonjour, c'est plus une réflexion. Quand on fait des réseaux neuronaux profonds, les données sont l'algorithme quelque part, au sens où à l'arrivée, l'algorithme qu'on obtient vient des données. Et les gens qui développent des réseaux neuronaux profonds font un gros travail sur les données avant même d'entraîner. Il y a un travail qu'on appelle d'augmentation des données, c'est-à-dire comment on fait pour avoir encore plus de données. Et puis bien évidemment, il y a un travail de sélection des données. Mm-hmm. Je vais vous donner un exemple tout simple et qui n'est pas toujours évident. Si vous voulez travailler sur le cerveau, un grand classique dans l'augmentation des données, c'est de faire des symétries. Mm-hmm. Si on fait des symétries sur le cerveau, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste? Comment le réseau, à la fin, va être capable de
Absolument, analyser? Oui, bien sûr. C'est, voilà. Ça rejoint le biais...
Pardon, oui. Ah. Excusez-moi, Olivier Récou de l'EPITA.
D'accord. Ça rejoint le biais, si vous permettez, le biais d'encodage ou le biais de modélisation qu'on a évoqué au départ, qui est un biais donné.
Tout à fait. C'est un biais donné qui va se retrouver dans l'algorithme à la fin et qu'on ne peut pas corriger, puisque finalement, l'algorithme en lui-même, on ne le comprend pas. C'est-à-dire, modifier les poids d'un réseau neuronal, on ne sait pas faire.
On commence à comprendre un peu certains aspects des réseaux neuronaux. Et encore une fois, je pense qu'il y a différentes variantes de ces réseaux, ou en tout cas de détails d'implémentation dans ces réseaux neuronaux qui méritent d'être séparés, en tout cas, dans l'étude du biais algorithmique d'un réseau neuronal. Et comme vous évoquez, c'est la partie qui est plutôt due aux données, qui effectivement vient en amont de l'utilisation d'un réseau neuronal et qui peut elle-même injecter des biais dès le départ. Donc c'était un peu ce positionnement qu'on voulait, j'espère, étayer un peu, quoi. C'est cette
Si je peux. Donc, de ce que je comprends de votre intervention, c'est que finalement, dans le débat, vous seriez plutôt dans une position, on ne peut pas séparer en fait les deux aspects.
On ne peut pas les séparer, pour moi, dans les réseaux neuronaux profonds. Par contre, il y a plein d'autres algorithmes, les plus classiques dans le machine learning, où là, évidemment, on sépare sans aucun problème, puisque l'algorithme a été fait à partir de réflexion humaine. Dans le réseau neuronal profond, la seule chose qu'on fait en tant qu'humain, c'est l'architecture. Et une fois qu'on a fait l'architecture de réseau, tous les poids, les millions de poids qu'il faut trouver, vont être générés à partir des données, et là-dessus, on n'a plus aucun contrôle.
Moi, je vais être un peu en désaccord. sur le débat, je pense qu'il y a ce que je veux dire par il y a besoin de séparer ne signifie pas qu'il est aujourd'hui possible de séparer le risque, enfin, algorithmique du risque, le biais algorithmique dans ce cas, du biais donné, dans toutes les approches d'apprentissage. Même avec les réseaux neuronaux, il existe déjà quelques travaux qui tentent en tout cas d'apporter une explication, une transparence qui va dans le sens, peut-être qui pourrait alimenter cette séparation. Voilà. Il y avait une autre question ? Merci.
Oui, bonjour, Nicolas Maillat-Lafitte, Université de Lausanne. Et je voulais rebondir sur la question centrale de la séparation ou non-séparation, mais tout d'abord remarquer que toutes les interventions ont commencé. Bon, pour le juriste, se pose la question si séparer ou pas séparer. Et effectivement, dans le monde juridique, se pose la question de comment l'édifice du droit qui n'a pas été pensé pour ces objets va saisir ces questions disparates. Effectivement, et les questions de responsabilité et des préventions parfois peuvent être distinguées dans des approches soit procédurales, enfin, par des questions de respect des procédures ou des effets substantiels. Et donc voilà, là on peut effectivement voir parfois quelques séparations, mais il n'y a pas de one size fits all en même temps pour le droit. Et carrément, et ça dépend aussi des branches de droit dans lesquelles on a affaire et des technologies. Aussi, ça dépend. Donc, si on se met du point de vue interdisciplinaire et des sciences sociales, moi, je serais plutôt, tout en ayant dit qu'il n'y a pas one size fits all, donc il faut différencier, il y a quand même une intégration intrinsèque, même, par exemple, si on se met dans la critique discursive. Aujourd'hui, IA, c'est le nouveau mot pour Big Data. Moi, je pensais justement, hier, j'ai réalisé un propos et d'Anna Boyd, justement à la conférence de World Economic Forum, et qui a remarqué comment tout le parler a remplacé les questions de Big Data par IA, et qu'on regarde les questions algorithmiques, il n'y a pas de séparabilité au sens où les algorithmes, on les obtient à partir des ground truth, et on ne peut pas isoler les données d'entraînement des algorithmes qu'on fabrique. Voilà, c'est ça.
Merci beaucoup de votre intervention. On est d'accord, en fait, je pense. Je pense que pour reprendre un peu ce que vous avez mieux dit que moi, je vais le dire en termes peut-être encore plus simples de mon point de vue. En fait, effectivement, il y a d'abord identifier par exemple, dans une décision algorithmique, qu'il y a discrimination. Donc ça, il n'y a pas forcément besoin d'aller regarder dans le détail de comment cette décision a été prise, mais simplement peut-être juste la mettre en exergue dans un contexte et l'expliquer, et puis identifier le texte de loi qui s'applique, qui vient d'un domaine d'application ou qui sont un peu plus généraux. Et puis ensuite, il y a comment retracer et comment imputer la responsabilité qui demanderait d'ouvrir un peu certaines boîtes noires. Et puis ensuite, finalement, aussi éventuellement comment réparer soit le comportement algorithmique, soit ce qui s'est passé dans les données, de sorte à améliorer ou tenter d'améliorer. Et dans ce sens-là, la réparation, enfin, en tout cas, de mon point de vue, ce devrait être un processus interactif, puisque non seulement parce que ben, on répare pour plein de raisons, et donc il faut pouvoir parler au système, mais aussi on devrait pouvoir révéler les choses, et il y a un processus cognitif d'interception et de compréhension de comment ce comportement algorithmique a généré telle ou telle décision, pour décider comment agir, hein, et comment, ouais, voilà. On vous remercie pour, voilà.